sous les couvercles, la good food.
You're probably eating your peas incorrectly. What we never do with peas is shovel them onto the underside of the fork and bring them up to the mouth because they fly everywhere. Instead, using the back of your knife, push and spear some peas onto the tines of your fork. You have a neat little collection which you can eat like so.
Push and spear. De l'art de manger du petit pois par un homme que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines à cause de vous, justement, Aurélie et Sarah. William Hanson, étiquette, ça s'appelle. C'est un vrai gentleman. Il est d'une élégance incroyable et il dispense tous les 2-3 jours un certain art de vivre à la table. Et donc, comment manger ces petits pois? Ça ne se passe pas à la cuillère comme on fait comme chez nous, les sauvages, ni à la fourchette. On prend les petits pois qu'on cale sur la lame du couteau et on mange quelques petits pois.
Avec le couteau dans la bouche?
Ben non, le couteau cale le petit pois
contre
et vous allez, voilà, et vous allez piquer les petits pois devant le couteau.
Ok.
Voilà, Aurélie Velasico, Sarah Lacham. Alors le petit pois, l'Angleterre, histoire incroyable.
Oui, le petit pois, élément indispensable. Vous allez les trouver dans tous les congélateurs des Anglais,
oui.
Ça c'est une garantie. D'ailleurs, chaque Anglais et Anglaise mangerait environ 9000 petits pois chaque année.
Ça a été
conçu. C'est du syndicat des producteurs de petits pois. D'ailleurs, c'est hyper drôle, le site s'appelle Yes Peas.
Yes
voilà.
Peas, Yes Peas. Ouais, oui, avec 10 secondes de retard, 20 secondes, 30 secondes de retard, oui.
C'est génial.
Donc 9000 petits pois par an, par habitant en Angleterre. Donc on a été très précis dans le calcul, parce que précisément, le petit pois est incontournable dans cette cuisine. Qu'est-ce qu'on en fait de ce petit pois, justement, Aurélie, Sarah?
Oui, alors le petit pois, c'est vrai qu'il est omniprésent. Souvent, par exemple, au pub, le servir avec le fish and chips, à côté donc, des frites. Bien sûr, on a la soupe de petit pois, qui est très connue, ouais. Petit pois à la menthe, avec un petit peu de bacon. Après, on a aussi le peas pudding, qui est fait pas vraiment avec des petits pois, mais plutôt avec des pois cassés. C'est quelque chose, c'est assez omniprésent, toujours une petite touche de vert bien coloré dans les assiettes des Anglais.
Alors, dans ce livre, Angleterre, Tea, Piccalilli, Pasty, Piccalilli, on peut peut-être rappeler, c'est quoi ?
Le Piccalilli, c'est un condiment qui est composé donc de plein d'épices, qui est assez relevé avec du piment et dans lequel on ajoute des légumes à l'intérieur. Ouais. Donc, traditionnellement, ça va être du chou-fleur, des haricots verts, des oignons.
Hop. C'est bon.
Mais on en est des grands amateurs.
Oui, la version belge. C'est délicieux. Et les Anglais, ils sont très, très forts pour tout ce qui est condiment, de toute manière. C'est un truc qu'ils font excellemment bien. Et moi, j'adore ça, le Piccalilli en sandwich. Donc, moi, je l'utilise avec une tranche de fromage, peut-être du jambon ou du rôti, et hop, un petit peu de Piccalilli dessus, entre deux tranches de pain, et c'est vraiment délicieux.
Alors, depuis quelques années, Sarah et Aurélie, et j'imagine que le Brexit a sans doute accéléré le processus, on observe une nouvelle dynamique qui est un retour aux produits locaux, aux recettes patrimoniales, mais revisité par la nouvelle garde des chefs. Est-ce que ça se confirme, vous qui avez véritablement vécu l'immersion anglaise?
Alors oui, c'est tout à fait vrai. Bon, nous, ça fait moins d'une dizaine d'années que l'on habite au Royaume-Uni, donc on n'a pas eu la mesure de tout ce changement, mais on a parlé à des Anglais, notamment Sarah, qui est une Anglaise qui habite en Alsace et qui a un podcast qui s'appelle La Crème Anglaise. Elle parle beaucoup de cette redécouverte de la gastronomie anglaise, puisqu'elle-même, dans son enfance, elle ne mangeait pas du tout pareil qu'aujourd'hui, quand elle retourne en Angleterre. Nous, on l'a vu en allant rencontrer des producteurs, des éleveurs qui n'ont aujourd'hui pas d'autre choix, bien sûr, que de développer la vente directe, puisque d'une part, il y a aussi la mainmise des supermarchés qui impose des prix très très bas. Et comme vous l'avez dit, le Brexit qui a eu pour effet de compliquer les exports, mais aussi les imports, et on est presque sur un 50-50 en termes d'imports d'aliments pour le Royaume-Uni, donc ça fait qu'on est quand même très dépendant des imports, mais qu'on essaye de développer au maximum la production locale. Après, c'est pas toujours facile. Et dans le livre, on a rencontré Holly and Mark, qui sont deux agriculteurs qui habitent dans le sud-ouest de l'Écosse et qui ont ouvert un magasin de ferme. Ah pardon, de l'Angleterre. Ouf, j'habite moi-même.
L'Écosse, c'était le livre d'avant.
C'est pour ça. C'est pour ça, merci. Et ces deux agriculteurs ont ouvert ce super magasin, ils ont lancé des visites de leur ferme pour le public, et, parce qu'ils essayent de diversifier leurs revenus et de vendre en direct leur viande. Donc c'est génial pour les Anglais de pouvoir acheter une viande qui a été élevée à trois pas de chez eux, et dont en fait tout leur argent va être en partie va être reversé à ces agriculteurs-là. Malheureusement, il y a quelques semaines, on a appris que Marc et Oli ont dû fermer leur magasin pour quelques temps, tout simplement parce que c'est en fait un métier complètement différent. différent que de faire de la vente directe, faire le marketing, convaincre les gens d'acheter ces produits-là. Donc c'est pas tout simple, mais en tout cas, on est sur cette tendance et on essaye de développer cela. Mmh. On peut aussi penser peut-être aux émissions télé culinaires qui ont le vent en poupe hein, en sûr. Angleterre, qui ont souvent inspiré d'ailleurs des émissions qui sont arrivées ensuite dans le reste de l'Europe. On aime s'informer sur la nourriture, on aime les histoires. Après, voilà, faut voir comment est-ce qu'on peut adapter tout cela dans le quotidien des gens.
Mais c'est une tendance qui a aussi été fortement appuyée par ces chefs dont on parle beaucoup, même dans cette émission. Hein. Je pense à Gordon Ramsay, mm-hmm. je pense à Jamie Oliver, je pense à Nigella Lawson, etc. Il y a notamment aussi un célèbre ancien animateur, je pense à la BBC, Jeremy Clarkson, qui...
Top Gear, mon émission préférée du monde.
On va peut-être juste rappeler, c'est un journaliste spécialisé dans l'automobile, et effectivement, il y a le Top Gear UK, The Grand Tour.
Un bon vieux mascu.
Mais le gaillard, il a créé une ferme d'élevage, et il a beaucoup travaillé aussi à populariser le vrai terroir anglais, quoi. Donc ça a permis aussi d'un petit peu avancer dans la conscientisation des Anglais, hein, pour le coup.
C'est vrai que cette émission... Alors, il y a eu beaucoup de critiques et beaucoup de prières hein, pour cette émission, mais franchement, elle a le mérite d'exister. Donc, Claxhorn Farm, c'est une émission qu'on peut trouver, je crois, sur Amazon Prime, un peu partout en Europe aussi. Ouais. Donc, Jeremy Clarkson, il se trouve qu'il possède une ferme, il la louait, le monsieur qui l'a louée est parti à la retraite, et Jeremy Clarkson s'est dit, allez, je vais la gérer moi-même. Mm-hmm. Et donc, il s'est fait suivre par une équipe de télé. Alors, c'est très drôle, mais on est confronté aux problèmes de l'agriculteur, la météo, la hausse des prix, les prêts, les autorisations de la commune pour faire telle ou telle activité. Lui-même, il va ouvrir un magasin de ferme. Mmh. Alors là, à l'inverse, il est tellement célèbre qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont voulu venir dans son magasin que ça a semé la pagaille dans la région où il se trouve, hein, c'est vers les Cotswolds. Mais c'est vrai que ça a permis aux gens de se dire « Ah mais attends, les agriculteurs à côté de chez nous, ils ont besoin de notre aide.
» Eh bien, si j'avais su que Sophie nous citerait Jeremy Clarkson,
je
serais venu alors que je suis venu quand même.
Je vous raconte pas deux secondes. Mon père en était fan.
Ah bah écoutez.
Donc vous voyez. Donc,
moi j'ai tout regardé depuis 30 ans, 25 ans, oui.
Donc il a un peu bercé ma vie ce garçon, il le sait pas, mais voilà, donc comme quoi. Bon. Mais voilà, dans tous les cas, c'est une dynamique qu'on observe et qui est assez forte. Mais il faut dire aussi que le terroir s'y prête bien. Alors nous ne connaissons pas forcément les particularismes de toutes les régions, mais vous l'expliquez, depuis le sud-ouest, des Cornouailles, au Norfolk, au Sussex, au Yorkshire, il y a vraiment des produits qui se dégagent. On passe progressivement d'une cuisine de la mer, à des élevages, à des productions maraîchères. C'est très, très riche, ce terroir anglais.
Oui, c'est très varié. Même si le climat est quand même relativement constant.
Comme chez nous,
voilà. Il y a beaucoup de différences. Et c'est vrai que je pense, par exemple, aux Cornouailles, au sud-ouest, où là, c'est vraiment très maritime, l'omniprésence de la pêche, et du paysage marin. Mmh. C'est ça, des crabes. Moi, il y a une région que j'adore, c'est le Lake District. Donc là, c'est tout au nord, presque à la limite avec l'Écosse, et là c'est au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus terrestre, un élevage, des saucisses incroyables, de la viande géniale, des gâteaux délicieux, il y a vraiment beaucoup de variétés, un terroir omniprésent et beaucoup de recettes qui sont très très locales. Je pense par exemple, on a parlé des corniches pastis, on a le Grasmere pudding qui donc là lui vient du nord, c'est un pudding à base de gingembre, un gâteau à base de gingembre. On a beaucoup de différentes spécialités. Ouais.
J'ai découvert aussi que, par exemple, du côté du Norfolk et du Sussex, il y avait par exemple l'art de la moutarde à l'anglaise qu'on connaît tous, ça vient de là.
La moutarde anglaise, la Coleman's, d'ailleurs, Coleman's. Depuis le Brexit, est assez compliquée à trouver, on l'a dit. Moi, ce que j'aime beaucoup, cette moutarde, c'est qu'elle existe sous deux formes. Mm-hmm. La forme moutarde donc, qu'on connaît, qu'on peut utiliser à la cuillère, mais aussi elle existe en forme de poudre.
Oui.
Et ça, je trouve ça très, très, très intelligent parce que c'est super facile à mettre, un fond de tarte ou pour parfumer une soupe ou quoi que ce soit. Cette poudre, elle a beaucoup de piquant, elle est délicieuse. Donc j'aime beaucoup le fait de pouvoir la trouver en poudre.
Alors parmi le renouveau et la remontada des produits artisanaux, il y a évidemment le monde fromager. On en connaît tous, le cheddar, le roi. Vous aimez ça, Michel?
Moi, je suis fan.
Bon cheddar artisanal, c'est vraiment top. On peut peut-être en parler de ce cheddar et puis on viendra sur justement tout ce qui bouge au niveau des pâtes fromagères. Le cheddar, l'incontournable, sans doute le rescapé de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qu'on a mis vraiment les bouchées doubles pour le fabriquer de manière très industrielle au lendemain de la guerre. Qu'est-ce que reste-t-il de ce cheddar aujourd'hui en Angleterre en 2024?
Le cheddar, c'est le grand favori des fromages anglais. Alors moi, honnêtement, j'ai une révélation avec le cheddar à base de lait cru.
Ah bah oui.
Parce que moi, je ne connaissais que le cheddar qu'on achète dans les magasins, qui sont c'est du cheddar industriel. Et en fait, dans notre voyage avec Sarah, on a été à la ville de cheddar et on a visité une fromagerie qui fabriquait du cheddar, mais à base de lait cru, enfin fabrication beaucoup plus artisanale. Et là, le goût est totalement différent et j'ai vraiment adoré. Le fromage, le cheddar au lait cru, délicieux.
J'imagine que ce cheddar, produit à cheddar, jouit d'une AOP. C'est le West Country Cheddar, c'est ça?
Alors, en fait, à l'origine, le cheddar, on ne l'a pas protégé. C'est pour ça qu'il est produit dans tout le Royaume-Uni, jusqu'en Écosse. Cependant, il y a une appellation d'origine contrôlée pour le West Country Farmhouse Cheddar. Ça veut dire qu'il faut le faire fermier. À la ferme. Voilà. Et la fromagerie que l'on a visitée se trouve dans le village de cheddar. Et donc n'a pas cette appellation parce qu'elle n'est pas faite dans une ferme. Pourtant, elle utilise 100% le lait d'une seule ferme. Mais la production n'est pas faite sur place. Mais c'est bien que maintenant, on essaye vraiment de mettre en avant ce fromage fermier pour le nuancer, le différencier justement de fromage plus industriel.
Cela dit, il y a quand même une bonne nouvelle, je trouve, pour le cheddar. C'est que moi, j'ai la même révélation que vous, mesdames. C'est qu'il y a une quinzaine d'années dans un magasin qui s'appelle Neil's Diary du côté de Borough Market. Il y en a plusieurs, Neil's Diary. Je goûte un fromage maturé, je me dis, oulala, c'est meilleur que du parmesan, j'arrête de manger du parmesan.
C'était
du cheddar qui avait 20 mois, je crois, comme ça, ou 24 mois, 36, 48, je ne sais plus, 10 ans. Et on trouve maintenant, même dans la grande distribution en Belgique, du cheddar maturé emballé dans de la cire qui est franchement pas mal du tout.
Absolument.
Il est vendu au prix de l'orphin, mais il est franchement pas mal. Et le mac and cheese avec du cheddar maturé, c'est très bon. Voilà. Avec une cuillère de moutarde.
Moutarde à l'anglaise, alors.
Oui, bien sûr.
Le menu est fait.
Magnifique. Bon, donc, le cheddar, on peut en trouver de très jolies versions artisanales. On pense évidemment, en parlant de l'Angleterre, du Stilton AOP, du Stickleton. Deux petites différences quand même sur ces fromages. Il y en a un thermisé et l'autre au lait cru, c'est ça? Lequel?
Le Stickleton est au lait cru. Alors, pardonnez-moi, je vais faire le singe savant deux secondes. Donc, le Stilton, effectivement, a eu l'appellation, et je pense que comme ils avaient des petits soucis de régularité, le cahier des charges de l'appellation a prévu que ce soit du lait thermisé ou du lait pasteurisé, pour régulariser le truc. Cela dit, le Stilton reste un fromage extraordinaire, je trouve, surtout dans les petits pots.
En version bleue ou blanche
En revanche, le Stickleton, qui se fait dans la même région, est une espèce de spin-off au lait cru du coin, qui n'a pas d'appellation, rien du tout, et qui, effectivement, est absolument délicieux aussi. Mais franchement, parfois, à l'aveugle, je trouve qu'il est bien difficile de distinguer les deux, tant le thermisé, Stilton, obtient des très bons résultats, je trouve, à déguster.
Je ne sais pas ce qu'on en pense autour de la table.
Oui.
Moi, je suis
une pro-Stickleton, je ne sais pas si c'est une addiction, je ne sais pas l'expliquer.
Les deux me plaisent. Pas de préférence particulière, mais j'avoue que je ne m'étais pas aussi profondément penché sur ces deux choses-là. Je mangeais ça,
sans savoir,
comme un innocent.
Libre.
Vérifiez quand même mes dires, parce que je ne suis pas scientifique.
Non, vous avez parfaitement raison. Le lait cru, c'est pour le Stickleton, effectivement. Mais au-delà de ces emblématiques, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau fromager.
Oui, c'est vrai, il y a quelques fromages qui sont plus récents, peut-être de la fin du XXe siècle. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir le Cornichiargue, qui est lui aussi entouré de feuilles d'ortie, il me semble.
Ouais, c'est ça, feuilles d'ortie.
Ouais. Et ce fromage, il porte ce nom Cornichiargue parce qu'il vient des Cornouailles et que le monsieur qui l'a inventé s'appelle Gray, G-R-A-Y, et donc il a juste pris son nom de famille à l'envers.
D'accord.
Et c'est une pâte molle, une pâte dure, c'est quoi?
C'est une pâte dure qui a un goût assez intéressant, assez salé. J'en ai beaucoup mangé. Ils ont aussi une variation à l'ail des ours, le wild garlic, qui est très très bonne aussi, qui est beaucoup plus saisonnière. C'est vrai que le Cornichiargue, il faut avoir une bonne fromagerie parce qu'on le trouve pas partout. Hein. C'est un fromage assez confidentiel, on va dire.
Et puis sinon, il y a aussi le Wednesday Day que vous avez vu dans Wallace et Gromit. Quand Wallace et Gromit veulent aller sur la Lune.
Ah non, c'est, là, vous, je suis
les
explosé, je n'ai pas
les
la
crackers,
du
c'est
tout.
Le fromage.
Comment ?
Les crackers, ils, voilà. ils mangent toujours des crackers.
Ah oui, oui, les crackers, c'est voilà. obligatoire, ouais. oui. Et les water biscuits.
Donc, joli développement de toutes les productions fromagères, des élevages anglais ancrés dans leur terroir, pas mal de productions maraîchères, je l'imagine aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. Tout ce que vous pouvez imaginer. Puis on aime surtout la rhubarbe.
Le colza. Ouais. L'huile de colza qui est très...
Ouais, en fruits et légumes, ah, les pommes, les poires,
les pommes,
qui peuvent se transformer en cidre.
Les fraises, ah, oui.
aujourd'hui.
Et vous me lancez une jolie perche.
Avec une fraise anglaise.
Oui, mais vous me lancez une très jolie perche. Au niveau boisson, on a évidemment la bière, on a évidemment le thé, on a le gin incontournable que Michel connaît très bien.
Ben voilà.
Mais on a aussi le cidre anglais, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Il est très différent des cidres bretons ou normands. C'est peut-être la question piège.
Ça fait depuis 1000 ans qu'ils sont normands, de toute façon, les Anglais.
Alors, vous allez nous les fâcher.
Aïe, aïe, aïe.
Le cidre anglais est plus sucré que le cidre français. Okay. Le cidre français, il est brut. Mm-hmm. Le cidre anglais est un peu plus sucré, ouais.
On n'a pas cette même notion de cidre doux, cidre brut. On est un peu au milieu. Les techniques sont un petit peu différentes. Ouais. Le cidre, c'est un alcool qui a vraiment le vent en poupe, qui gagne du terrain, même si ça reste beaucoup moins bu que la bière, oui, on est d'accord. Sûr. Mais c'est un alcool qui se développe beaucoup. Et nous, on a eu la chance de visiter une cidrerie en Westons, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui est une cidrerie qui est à l'origine familiale, mais qui maintenant joue vraiment dans la cour des grands. Et ce qui est chouette avec le cidre, c'est qu'on peut en faire plein de choses, on peut l'aromatiser, on peut le consommer soit pour les fêtes, mais il est devenu très populaire aussi comme boisson estivale, comme boisson fraîche, puisqu'il y a eu une grande publicité au début des années 2000 où on sert le cidre avec des glaçons.
Et le cidre d'un coup, piscine.
Voilà, et ça a un petit peu changé l'image de cet alcool.
Dites-moi, avant de se quitter, Aurélie, Sarah, j'aimerais vous demander quel est pour vous le plat incontournable si on passe un petit moment en Angleterre.
Juste un.
Le truc qui vous a, quand vous l'avez goûté, vous dites là c'est bon, je peux mourir quoi.
Ah bah moi c'est le bœuf Wellington.
Ah le bœuf avec cette fameuse croûte autour, c'est
oui,
bon ça.
C'est
ouais.
ça, c'est un ouais. C'est un bœuf. Bon. Le rôti il est entouré d'une duxelle de champignons, donc c'est des champignons finement émincés avec plein d'épices et autour de ça on enroule avec des fines tranches de jambon de pays et autour de ça on le fait cuire dans une croûte de pâte feuilletée. Ce qui fait qu'en fait le roast beef à l'intérieur, il est cuit dans son jus et il est aromatisé, il a un goût incroyable. Moi, ça a vraiment été la révélation.
Et moi, je dirais, la révélation à travers ce livre, c'était plus un moment. Le moment où on s'est retrouvés au bord de la mer, dans les Cornouailles, en fin de journée, contente de notre journée d'aventure. Et on a mangé la Cornish pasty, qui est donc ce chausson à la viande, qui est fait, mais à tous les coins de rue, qui coûte, je sais pas, 3 ou 4 livres. Ouais. Et c'est très gourmand, très consistant. On peut choisir tout ce qu'on veut comme farce à l'intérieur. Et on a ce petit chausson chaud dans la main, on est assis face à la mer et la poésie se fait.
Magnifique.
Ouais, c'est vrai.
Et puis ça me tend une perche aussi pour rappeler qu'au niveau des endroits où manger, il y a évidemment les pubs, il y a aujourd'hui les bistro-pubs, un petit peu plus chic, un petit peu ce qu'on vit ici chez nous. Et on en parlera dans un instant avec vous, Michel, avec une déclinaison bistronomique d'un gastronomique. On a le phénomène aussi de la street food, très très important aussi en Angleterre. Voilà, donc ça se développe. Il faut être curieux, il faut dépasser les clichés. Moi, c'est vrai que j'ai été deux fois en Angleterre, j'étais un petit peu déçue, mais j'étais peut-être pas aux bons endroits. Et voilà, j'ai pas eu votre chance d'aller chez Eston, moi.
Bah écoutez, chance n'a pas été créée par moi, mais par une amie bienfaitrice. Oh. Là, je vais la citer parce qu'elle écoute l'émission quand elle est en Belgique, qui s'appelle Myriam Murphy. Elle est irlandaise au départ, et c'est elle qui m'a initiée au grand Eston Blumenthal. Donc merci, Myriam.
Bien, et bien écoutez, on va se plonger dans cette lecture Angleterre, tea, Piccalilli, pasty, 60 recettes et autres explorations de la cuisine anglaise. Anglaise publiée aux éditions de La Martinière, écrit par vous, Aurélie Bellassico et Sarah Lacham. On va vous laisser vaquer à vos occupations. Mesdames, merci pour ce très joli voyage so British, très anglais. On a adoré ça. Et on se retrouve quoi l'année prochaine? Vous allez partir où l'année prochaine? Vous nous faites quoi? L'Irlande?
Pays de Galles.
Oh là là, on va déjà prendre une petite pause parce qu'enchaîner deux livres d'un coup, ça a été beaucoup de boulot. Ouais, parce qu'on a chacune un
une
job.
Voilà.
Mais peut-être, on verra.
On verra.
En tout cas, merci de nous avoir reçus.
Mais c'était avec grand plaisir. God Save the Queen ou The King.
The King. Bon, j'allais dire une horreur.
J'espère qu'il va mieux, Charles, d'ailleurs.
On espère un prompt rétablissement à notre roi.
Voilà, à suivre. Michel, quelques bonnes adresses de notre terroir à nous. Trois belles adresses à épingler dans les agendas. Donc, vous prenez déjà le petit carnet de notes et de quoi noter. On va se régaler. Merci, mesdames, et belle journée.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.